La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est Safia Areski. Vous publiez un ouvrage intitulé « De l'ALN à l'ANP, la construction de l'armée algérienne 1954-1991 » aux éditions de la Sorbonne. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Safia Areski, vous êtes historienne. Ce livre est le prolongement de votre thèse. Un livre important. Comment avez-vous eu l'idée de travailler sur l'armée algérienne à la fois avant l'indépendance de l'Algérie et après l'indépendance?
Eh bien, complètement par hasard, puisque moi j'étais en double licence d'histoire et de sciences politiques, et dans un exercice, un cours d'informatique appliquée à l'histoire, nous devions faire une base de données. Et au même moment, je lisais un livre dans lequel, dans les annexes, se trouvaient les chefs de régions militaires algériennes. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une base de données sur l'armée algérienne, complètement par hasard. Et puis je me suis prise au jeu, je trouvais le sujet intéressant, et puis du coup j'ai proposé ce sujet à ma professeure d'histoire des sociétés arabes contemporaines, et je lui ai dit que j'aimerais beaucoup faire un M1 sur ce sujet. Donc elle m'a regardée avec des yeux ronds en me disant qu'en gros c'était quand même un peu impossible, mais que c'était quand même un très bon sujet. Et puis finalement elle s'est vite rendue compte que c'était un sujet tout à fait faisable et réalisable, et donc ensuite j'ai fait donc un M2 et un doctorat.
Alors, à quelles difficultés est-on confronté quand on est historienne et qu'on s'intéresse à une institution qui semble aussi opaque que l'armée algérienne ?
Je pense que finalement, il y a moins de difficultés que ce qu'on peut imaginer au premier abord, tant justement cette institution est vue comme une espèce de nébuleuse très opaque, comme vous dites. Après, très clairement, il peut y avoir un problème de source, puisque on n'a pas d'archives après 1962. Des difficultés, alors moi, ça fait pas loin de 10 ans que je suis allée aux archives à Alger, mais il y avait quand même des difficultés d'accès aux documents qui datent donc de la guerre de libération, mais c'est aussi un des attraits de ce sujet, c'est que du coup ça oblige à se tourner vers différents types de sources. Je pense par exemple au carré des martyrs du cimetière d'El Alia à Alger, où j'étais allée pour récolter par exemple des dates de naissance et de décès d'officiers algériens.
Alors, dans sa préface à votre ouvrage, l'historienne Malika Rahal souligne qu'il est très rare de voir des livres historiques sur l'Algérie s'intéresser à ce qui s'est passé après 1962. Pourquoi était-il important pour vous de parler de l'armée algérienne depuis l'indépendance ?
Alors, il y a peut-être un effet générationnel. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, on approchait des 50 ans de l'indépendance. Il y avait effectivement déjà de très nombreux ouvrages sur la guerre d'indépendance, mais pas grand-chose sur la suite. Et donc, j'avais aussi envie de comprendre qu'est-ce qu'il y avait entre 62 et 2011, mon inscription en doctorat, donc un peu avant.
Alors, vous racontez les biographies de hauts gradés, parmi lesquels certains ont exercé des fonctions importantes. Est-ce qu'on peut parler d'abord des officiers qui ont travaillé au sein de l'armée française et qui ont rejoint ensuite l'ALN ? Vous expliquez que tous n'ont pas été des déserteurs, contrairement à une certaine légende assez répandue.
Oui, parce qu'on entend beaucoup parler des DAF, les déserteurs de l'armée française, qui est un terme que moi, je n'emploie pas. Effectivement, beaucoup et la plupart ont déserté, mais certains ont rejoint la lutte à la fin de leur contrat. Donc moi, j'emploie pas ce terme, même si effectivement, il y a donc un certain nombre de déserteurs. C'est un terme qui est devenu quand même très, très péjoratif. Donc je préfère rester dans une posture plus neutre et parler je parle parfois des déserteurs, mais sinon je parle beaucoup aussi des anciens de l'armée française, de première ou seconde génération, puisqu'on a vraiment deux groupes très distincts qui ne désertent pas à la même période. On a un groupe qui déserte plus vers 56-57, un autre vers 58, et ce sont des hommes qui n'ont pas les mêmes trajectoires. Les anciens de l'armée française de première génération, pour beaucoup, voire même tous, ont fait la guerre d'Indochine. Certains ont même combattu durant la Seconde Guerre mondiale, tandis que le groupe des anciens de l'armée française de seconde génération sont plus jeunes, et généralement, quand donc ceux-là, la plupart désertent, et généralement, quand ils désertent, ils sortent à peine de l'école de formation militaire.
Ces militaires algériens qui ont eu une formation militaire au sein de l'armée française étaient prêts à faire la guerre pour l'indépendance. C'était un atout pour cette jeune armée de libération nationale.
L'ALN va très vite avoir un gros problème en termes de cadre et d'encadrement. Il faut rappeler que le 1er novembre 1954, quand la guerre est déclenchée, ce sont moins de 1000 hommes dispersés sur le territoire algérien qui lancent cette guerre. Donc voilà, il faut rappeler quand même un petit peu ces chiffres qui sont très importants. Et effectivement, il y a un problème de cadre, mais qui est lié aussi à la situation de l'Algérie à la période coloniale. On estime en 1954, les chiffres donnent 86% d'analphabétisme chez les hommes. Donc forcément, ça se retranscrit également chez les maquisards. Et donc effectivement, quand ils vont déserter ces hommes ou rejoindre l'ALN, la plupart de ces hommes vont se retrouver aux frontières de l'Algérie, au Maroc et en Tunisie, surtout en Tunisie, et ils vont progressivement former l'encadrement des camps aux frontières qui servent à former les combattants de l'ALN.
Safia Areski, pourquoi la frontière tunisienne a-t-elle été le berceau de cette armée de libération nationale?
Alors, la Tunisie et le Maroc obtiennent donc leur indépendance en 1956, et très rapidement, l'ALN va installer des bases fixes sur ces territoires qui vont servir d'une part à faire transiter des armes et progressivement à assurer une formation aux combattants de l'ALN. À partir de 56-57, la France va construire au Maroc la ligne Tédron et en Tunisie les lignes Maurice et Chal qui sont des barrages électrifiés avec des zones minées, etc. pour empêcher les combattants de se rendre en Tunisie, s'approvisionner en armes, etc. Et donc progressivement les frontières vont devenir de plus en plus étanches et les hommes ne vont plus pouvoir retourner sur le territoire algérien. Alors pourquoi la Tunisie plus que le Maroc? C'est lié à l'implantation du mouvement révolutionnaire qui est beaucoup plus présent au départ quand même à l'Est, dans les Aurès, notamment en Kadhi, etc. Et donc géographiquement, l'Est est bien entendu plus proche de la Tunisie pour aller s'approvisionner en armes et se former.
Safia Areski, à quelles difficultés ont été confrontés les chefs militaires de l'ALN quand il a fallu construire l'armée algérienne après la guerre?
Alors, il y a déjà eu une grosse crise au cours de l'été 62. C'est une crise assez compliquée avec des lignes de fractures assez nombreuses, mais il va y avoir des gros conflits entre notamment ce qu'on appelle l'intérieur et l'extérieur. Il va falloir unir ses forces, et c'est d'ailleurs Ben Bella, donc le premier président de la République algérienne, dans une interview de novembre 62, qui a dit « Nous n'avons pas une armée, mais sept armées de libération, les six wilaya plus l'armée des frontières ». Donc il va s'agir d'unir ses forces, ce qui va être un processus qui va prendre quand même assez... qui va prendre du temps. Il y a également la question que j'ai commencé à évoquer, la question de l'analphabétisme, de l'illettrisme et de la professionnalisation nécessaire de ces forces militaires. Donc voilà, ça va être vraiment les gros enjeux, mais la professionnalisation, c'est un processus qui va prendre une bonne vingtaine d'années, je dirais. C'est assez long à mettre en œuvre.
Alors comment les anciens maquisards et les anciens militaires ont-ils été recyclés? Est-ce qu'ils ont tous rejoint l'armée ou bien ils ont rejoint la vie civile?
Alors il y a de nombreux profils, là ça me permet d'aborder notamment un profil d'officier dont je n'ai pas encore parlé. Il s'agit des jeunes qui vont être envoyés en formation au Moyen-Orient, en Chine et en URSS durant la guerre. Un certain nombre vont rejoindre l'ALN suite à l'appel à la grève des étudiants de mai 56. Et finalement, ces hommes qui ont un petit niveau scolaire, niveau lycée, ce qui est quand même assez important pour l'époque, beaucoup vont être envoyés en formation, pour certains, dans l'aviation ou encore la marine, qui sont des armes dont ne dispose bien entendu pas l'ALN, mais en prévision de la construction de l'armée future. C'est-à-dire pour moi, je date finalement la naissance d'une certaine manière de l'ANP à partir de 57, où dans l'ALN, on a une idée du futur, qu'il va falloir former ces jeunes hommes pour avoir des cadres après l'indépendance, et on va les envoyer pendant plusieurs années au Caire. Vous avez le président de la République algérienne, Lamine Zeroual, qui sera président dans les années 90, qui a été envoyé en Jordanie. Beaucoup aussi ont été envoyés en Syrie. Des aviateurs ont été formés en Chine. Et donc, tous ces hommes, à l'indépendance, certains auraient pu penser rejoindre une vie civile. Et il y a notamment, me semble-t-il, c'est Yahya Raal, qui est un aviateur, qui raconte que il a été fortement incité à rester dans l'armée, puisqu'on avait besoin de ces hommes qui avaient bénéficié d'une formation. Ensuite, sur le recyclage d'autres officiers, moi je travaille sur les officiers supérieurs, donc c'est vrai que moi tous ceux sur lesquels je travaille, bien entendu, sont restés dans l'armée, puisque le corpus de base à partir duquel je travaille, mon critère c'est que tous ces hommes ont été dans l'ANP après l'indépendance, donc ceux qui n'ont été que combattants, de fait je ne les étudie pas. Ensuite, il faut quand même savoir que lors de la crise de l'été 62, il y a des dissensions entre Wilaya intérieure et il semblerait que certaines wilayas qui ont pu s'opposer un peu plus frontalement à l'armée des frontières aient moins été intégrées à l'armée, mais pour valider, pour étayer tout ça, il faudrait faire une étude plus poussée, avec des cohortes beaucoup plus grandes pour mieux comprendre aussi comment les Junoud, par exemple, ont été intégrés ou non à l'armée.
Safia Ariski, dans ce livre extrêmement intéressant, vous revenez aussi sur des événements historiques comme la prise de pouvoir de Boumediene et la chute de Ben Bella. Comment expliquer ce coup d'État? Quel rôle a joué l'armée?
Alors, ce qui est très intéressant pour étudier donc cet événement, je me suis beaucoup appuyée sur les mémoires des témoins et des acteurs de l'époque, puisque beaucoup, je pense par exemple à Tahar Zoubiri, qui était chef d'état-major, a publié des mémoires, je pense aux mémoires de Chedli et à d'autres encore. Et donc, j'ai croisé ces témoignages pour essayer de mieux comprendre ce qui a mené, donc selon le vocable officiel, à ce redressement révolutionnaire. Et il y a plusieurs facteurs, je pense notamment à la nomination de Tahar Zoubiri comme chef d'état-major, nomination qui a été annoncée alors que Boumediene était en URSS. Alors c'est très compliqué, tout le monde n'est pas d'accord, tous les témoins ne s'accordent pas sur cet événement, qui serait un des événements déclencheurs. Mais en tout cas, on a la question de la nomination de Tahar Zoubiri, qui lui est un maquisard du 1er novembre, hein, il participe au déclenchement de la guerre d'indépendance. On a également la mise à l'écart du jeune ministre des Affaires des étrangères, Bouteflika, Ben Bella, qui souhaite le mettre à l'écart. On a aussi le fait qu'en juin 65, Ben Bella va sceller avec le FSS, donc le Front des Forces Socialistes, qui est en rébellion en Kabylie contre le régime depuis la fin de l'année 63. Il va y avoir un accord pour mettre fin au conflit, accord qui aurait été très mal perçu par Boumediene. Et enfin, on aurait eu aussi la volonté de Ben Bella de mettre en place des sortes de milices parallèles qui, de fait, portent atteinte à l'armée. Donc on a tout un faisceau d'événements comme ça dont la conjoncture va mener au renversement de Ben Bella en 65.
Comment Chedli Benjedid, Safia Ariski, a-t-il réussi à s'imposer au sein de l'armée après la mort de Boumediene, puisque ce n'était pas le favori pour accéder à la présidence?
Tout à fait. La nomination de Chedli résulte là encore d'une conjoncture et surtout de la volonté de certains acteurs de l'époque, notamment Kazim Erbah, qui était le chef de la sécurité militaire sous Boumediene. Et Chedli, effectivement, est un officier parmi d'autres, qui donc a été désigné par ses pairs. Alors la stratégie est effectivement, dans ce que j'analyse, quand même assez différente, puisque par exemple, sous Boumediene, on a très peu de nominations et de publications au journal officiel. Boumediene entretient un flou juridique dans ses nominations. Cela lui laisse quand même une assez large marge de manœuvre. J'ai constaté que sous Chedli, par exemple, on a une grosse augmentation des textes publiés au journal officiel. Donc j'ai émis l'hypothèse que c'était aussi pour asseoir son autorité et faire respecter ses décisions. Il faut ensuite savoir qu'il s'entoure de personnes qu'il connaît. La plupart de ses proches, lorsqu'il accède à la présidence, sont tous passés par la deuxième région militaire, donc la région de l'Oranais, où il a été en poste pendant près d'une quinzaine d'années.
Safia Ariski, quelles ont été les conséquences des émeutes d'octobre 1988 sur l'armée algérienne?
Alors, on constate qu'après les émeutes d'octobre, qui ont fait, il faut quand même le rappeler, plusieurs centaines de morts, on observe de grands changements au sein de l'armée. On a beaucoup de mutations au sein des régions militaires. On a également des changements au niveau des services de renseignement, avec notamment un des chefs des services de renseignement qui va être rapidement démis dès la fin du mois d'octobre 88, puisque notamment son service aurait été très impliqué dans les tortures sur les civils qui avaient été révélées au grand jour donc par le Comité national contre la torture. Et donc plusieurs victimes de sévices mettaient en cause le service de cet homme. Voilà, on observe beaucoup de changements, de mutations, de mises à l'écart au sein de l'armée, mais c'est un processus qui prend du temps. On a aussi donc suite à ces émeutes, on a des décrets dans lequel apparaît un homme qui n'était encore que colonel à l'époque et qui allait devenir par la suite extrêmement mystérieux et en tout cas très puissant en Algérie. Il s'agit de Mohamed Médiane, dit Toufik, qui va être le chef des renseignements algériens pendant près d'un quart de siècle. Et son nom apparaît pour la première fois en décembre 1988, puisque il est nommé directeur de la DCSA, donc la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée. Donc par la suite, il sera nommé à la tête du fameux DRS.
Vous avez mentionné justement ce personnage extrêmement mystérieux qui a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit donc de Mohamed Médiane. Je crois qu'il n'y a pas de photographie de lui. C'est un personnage sur lequel on a très peu d'informations et qui a été tout puissant en Algérie.
Alors, les premières photographies de lui apparaissent à l'orée des années 2000, un peu après, me semble-t-il. Je n'ai plus la date exacte en tête. Par contre, c'est effectivement un homme très mystérieux, dont la biographie s'écrit finalement au conditionnel. Hein. C'est assez compliqué. On ne sait pas s'il est né en Kabylie ou dans la Casbah. On connaît mal son parcours. Mais lui aussi est passé par la frontière tunisienne. Hein. Ça, j'ai retrouvé. Donc, c'est un témoignage d'un ancien militaire qui était publié dans la presse, où il raconte une bataille menée aux frontières et il raconte qu'il y avait croisé Mohamed Médiane, donc lui aussi est passé par la Tunisie. On sait que c'est un homme qui va passer par la deuxième région militaire, donc celle où sera Chedli, et ensuite ce sera ce tout-puissant chef du DRS jusqu'à sa mise à l'écart.
Et merci Safia Areski d'avoir été l'invité de la bibliothèque de Radio Orient, et je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage très complet intitulé « De l'ALN à l'ANP, la construction de l'armée algérienne 1954-1991 » aux éditions de la Sorbonne. Merci.
Merci à vous.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.